Bonjour et bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Nous regardons ensemble les paraboles qui nous seront servies en fin de semaine dans les églises qui utilisent le même lectionnaire, l'Église catholique et aussi d'autres églises. Alors, il s'agit de la brebis perdue. Ensuite, la pièce d'argent perdue et finalement, le fils prodigue. Mais la dernière, le fils prodigue, a été commentée au carême dernier. Elle est longue, elle est bien connue. Si vous n'avez pas d'objection, on va concentrer sur les deux premières, c'est-à-dire celle qui est proposée en lecture brève, si je ne me trompe pas, dans le lectionnaire. Peut-être, Francine, quelques indications qui nous aideraient à bien saisir ce texte?
Oui, ces deux paraboles auxquelles on attache souvent moins d'importance qu'à la troisième, comme vous le disiez, qui est si bien connue, celle du fils prodigue. Nos deux paraboles, je vous ai entendu les appeler comme tout le monde les appelle, ce sont les paraboles de quelque chose qui a été perdu. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce d'argent perdue. J'aimerais vous inviter à être attentif au fait que les récits que nous allons entendre mettent l'accent non pas sur ce qui est perdu, mais bien sur la personne qui a perdu quelque chose. Peut-être porter attention aux actes du personnage principal, finalement, de chaque parabole. Ces deux paraboles que vous allez nous lire, Claude, elles sont très symétriques. Et on peut facilement, avec un peu d'attention, repérer ce qui, de la première parabole, se trouve à être répété dans la deuxième parabole. C'est un peu comme des refrains, je dirais.
Alors, allons-y. C'est au chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes récriminait contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules. Et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins en leur disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit.
Alors, on le constate, Claude, l'insistance dans ces deux paraboles porte vraiment sur le berger qui a perdu une brebis et la femme qui a perdu une pièce d'argent, et on voit la symétrie, on l'a vu passer. Il y a toujours trois moments dans chacune des deux paraboles. Le moment où on nous informe de la perte, le moment un peu plus développé dans la deuxième parabole surtout, où le personnage met en œuvre tous les moyens pour retrouver ce qu'il a perdu, et le troisième moment dans chacune des paraboles, la joie d'avoir retrouvé et une joie qui se partage tout de suite en improvisant une petite fête. Et les répétitions, les refrains dont je parlais avant que vous nous fassiez la lecture, Claude, elles portent surtout sur ce troisième moment. On répète deux fois, chacun des deux va réunir ses amis, ses voisins ou voisines et va leur dire la même chose.
Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé celle qui était perdue.
Voilà.
Et ensuite, je vous le dis, ainsi il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit.
Oui, donc c'est deux paraboles qui cognent sur le même clou. Alors, pour leur donner tout leur relief, on va s'attarder, si vous me permettez, Claude, au contexte dans lequel Luc place ces paraboles, ces deux-là et la troisième du fils prodigue. C'est un contexte qui est très vraisemblable historiquement. Même si les paraboles sont transmises et que les évangélistes ne savent plus très bien dans quelles circonstances elles ont été racontées, le contexte que Luc donne ici peut très bien être le contexte réel dans lequel Jésus a raconté une ou deux ou trois de ces paraboles. Je vous demanderais, pour rafraîchir peut-être la mémoire, de nous relire le tout début qui nous donne le contexte.
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui, « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole.
Voilà, donc trois éléments. Ce que Jésus est en train de faire, les réactions que ça provoque et la réaction de Jésus à ces réactions. Ce que Jésus est en train de faire, c'est au fond une attitude et une situation qui nous sont familières. C'est la pratique d'inclusion de Jésus. Non pas exclure les loin de Dieu, c'est-à-dire les éviter, comme ce serait la pratique normale de tout bon juif qui appliquerait rigoureusement la Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse qui nous dit comment nous approcher de Dieu, on pourrait dire. Jésus va à l'inverse, c'est-à-dire non pas éviter ceux qui sont loin de Dieu, mais se faire proche d'eux. Pourquoi? Pour leur révéler la bonne nouvelle du Dieu qui se fait proche. Dieu qui se fait proche, c'est le sens même pour les chrétiens de l'incarnation. Dieu se fait proche de nous. Alors, dans la pratique même de Jésus, Jésus s'approche de ceux qui ne peuvent pas approcher de Dieu.
Et c'est cette attitude qui est critiquée, oui, justement, par les pharisiens et les scribes.
Oui, ouais. Dans les mots que Luc, ouais, choisit, cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux.
Voilà.
On pourrait remarquer que les scribes et les pharisiens pourraient très bien faire table commune avec Jésus. Et c'est fréquent chez Luc, plus que dans tout autre évangile, que les pharisiens invitent Jésus à leur table et ils l'acceptent toujours. Leur problème, c'est pas qu'ils refusent de manger avec Jésus, mais ils ne peuvent pas s'asseoir à une table avec Jésus et des pécheurs. Le repas a une certaine valeur religieuse à leurs yeux. Alors, voyez, Jésus ne les exclut pas, mais eux-mêmes s'excluent de cette table parce qu'ils excluent les loin de Dieu, parce qu'ils excluent les pécheurs. Et ici, je sais bien qu'on a nos images de pharisiens et scribes légalistes, tatillons, un peu scrupuleux, mais je voudrais rappeler que c'est la même réaction de toutes les bonnes gens de Jéricho lorsque Jésus décide d'aller loger chez Zachée. C'est la foule qui murmure, c'est le même verbe.
C'est le même verbe, oui, récriminer, murmurer,
voilà,
contre.
Mm-hmm. Oui, et mm-hmm. les gens vont dire, il est allé loger chez un pécheur, sous-entendu, il pourrait fréquenter le bon monde. Pour les gens que l'histoire intéresse, Zachée se trouve au chapitre 19 de l'Évangile de Luc.
Bon, alors Jésus leur dit cette parabole. Mais pourquoi une parabole? Il me semble qu'il pourrait donner une bonne petite explication rationnelle.
Oui, comme on fait nous, faire une bonne petite explication, un petit discours sur Dieu, sur ses options, sur sa théologie. Non, il raconte une parabole. Et faut bien voir, la parabole, elle est donc adressée aux pharisiens et aux scribes, et non pas aux pécheurs qui sont avec Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas écouter. Mm-hmm. Mais leur dit cette parabole, c'est en lien à la réaction. Je rappelle ce que j'ai dit à quelques reprises cet été, puis peut-être l'hiver dernier, que j'emprunte à Daniel Margera. La parabole, c'est un outil de dialogue dans les évangiles. C'est pas un outil pour que les gens ne comprennent pas. Au contraire, raconter une histoire au lieu de lancer une discussion abstraite, c'est une pédagogie ludique, une parabole. Vous sentez la tension qui monte dans l'air, les gens vont se mettre à s'affronter. Je vais vous raconter une histoire.
Ça.
Le ton change.
Ouais.
Le ton change. Il y a tout de suite, et c'était beaucoup plus courant aussi dans les sociétés antiques, cette pédagogie du récit. C'est un jeu. OK, on écoute. Et les paraboles sont des récits qui viennent chercher des exemples dans la vie quotidienne. C'est toujours des situations très familières pour les auditeurs. Tout le monde peut se reconnaître là-dedans. ici, tout le monde, y compris nous, même si les bergers, ça ne nous dit peut-être pas grand-chose dans notre expérience, mais l'angoisse d'avoir perdu quelque chose d'important, on peut tout de suite comprendre ça. Les efforts pour retrouver ce qu'on a perdu et la joie de l'avoir retrouvé, puis l'envie de dire à tout le monde, ça y est, ce que j'avais perdu, je l'ai trouvé. Voyez, la parabole, elle vient chercher l'accord immédiat des auditeurs parce que ils peuvent se projeter dedans. Et d'ailleurs, Jésus la commence en les interpellant à s'identifier. Lequel d'entre vous, s'il perd une brebis?
Hein? C'est ça. En fait, c'est une stratégie. On peut appeler ça une stratégie pédagogique.
Hein, oui, oui.
De sagesse populaire.
Hein. Oui, tout à fait. Ça fait appel à une expérience vécue qui est l'auditeur devient un participant du récit. Alors, ces deux paraboles, qui sont courtes, sont importantes puisque Jésus les utilise en réaction à la critique des pharisiens et des scribes. Hein. J'insiste sur leur importance. Pourquoi? Parce que souvent, dans le chapitre 15 de Luc, on lit l'ensemble à partir de la parabole du fils prodigue. Donc, on concentre sur le thème du repentir, du pardon.
Ouais. Et les deux premières servent un petit peu de hors d'œuvre. Ouais,
c'est
si on peut dire, on passe vite, là, puis on s'attaque.
Ouais, parce que le steak, là, c'est la troisième.
C'est ça.
Vous voyez?
Le fils prodigue, le fils perdu et retrouvé, là.
Tout à fait. Puis là, on concentre sur le cheminement de la conversion et le pardon du père, tout ça. Puis c'est évident qu'on peut pas s'identifier à la brebis perdue, on ne peut pas s'identifier à la pièce perdue, elles ne sont pas là pour ça, puisque c'est bien évident qu'elles n'éprouvent pas de repentir, la brebis et la pièce. Mais puisque Jésus utilise ces paraboles d'abord comme une réponse à la critique qui est faite sur son agir envers les pécheurs, on est invité à regarder à partir de cette clé de lecture. Hein. On peut faire comme une lecture christologique des paraboles. Le berger et la femme sont présentés comme des figures de ce que Jésus fait. Mm-hmm. Ça vaut peut-être la peine de s'y arrêter à ces figures de Jésus. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? On nous dit il accueille des pécheurs. C'est pas le verbe accueillir le plus courant qu'on a ici. C'est pas accueillir au sens normal.
Oh là, ben là, ça mérite un peu d'explication là.
Oui.
Pourtant, c'est un verbe qui revient un petit peu dans l'Évangile.
Oui, assez souvent.
Ouais,
le verbe, c'est dekomai.
Ok. Hein?
Pour le plaisir du grec, comme vous dites parfois.
Oui.
Bon, c'est le verbe qu'on trouve normalement dans.
Aller à la source, quoi.
Des exemples connus là. Hein? Si telle ville ne vous accueille pas, secouez la poussière de vos pieds. Ou en Samarie, on n'accueille pas Jésus parce qu'il fait route vers Jérusalem. Ça, c'est le verbe accueillir au sens courant, dekomai.
Ça, c'est dekomai. Mais ici, en grec, c'est pros dekomai.
C'est ça. Il y a une accentuation.
Ouais.
Et curieusement, je vais vous lire d'autres phrases chez Luc. C'est un verbe plus rare. Hein? seulement 14 fois dans le Nouveau Testament et la moitié du temps, c'est dans Luc. Alors, je vous donne des exemples et vous n'entendrez pas le verbe accueillir, mais d'autres exemples où on a ce verbe pros dekomai. Par exemple, au chapitre 2 de Luc, Siméon attendait la consolation d'Israël.
C'est le même.
Chapitre 2 toujours, la prophétesse Anne parlait de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Chapitre 23, Joseph d'Arimathie attendait le règne de Dieu. Bon, et dans une parabole où les gens attendent leur maître à leur retour des noces. À son retour des noces, pardon. Alors, vous voyez, c'est pas accueillir, c'est bien plus que ça.
C'est plus fort, beaucoup plus fort.
C'est une attitude intérieure où on accueille d'avance un événement dont on a très hâte qu'il se produise. Hein. On attend le règne de Dieu, on est prêt à l'accueillir, on l'attend avec intensité, avec force. Et c'est ce verbe-là que nous avons ici. Pour dire de Jésus qu'il accueille les pécheurs. Alors, c'est bien autre chose que les rencontrer par hasard, voir qu'ils viennent vers lui, puis dire « OK, je vais prendre un peu de temps avec eux
hein? ».
Ça nous dit qu'il les attendait.
Ouais,
ouais. Si on était ailleurs, on traduirait « attendait ».
Ouais, ouais.
Alors, ce verbe reflète des dispositions intérieures. Il accueille les pécheurs, oui, mais avec un désir impatient, hein. Comme s'ils attendaient leur venue depuis longtemps. Comme si leur venue, ça accomplit un désir intense. Comme Joseph d'Arimathie attend le règne de Dieu.
OK.
Alors, c'est pas surprenant que pour lui, ça soit la fête. Cette intensité-là, on la retrouve dans les deux paraboles. Et c'est pourquoi elles sont importantes. On voit bien l'intensité, on voit bien, on sent bien l'intensité de la recherche chez le berger, chez la femme, l'intensité de la joie qui les amène à inviter tout le monde, vous voyez. Et donc, ça oriente notre regard, je dirais, ces deux paraboles et ce verbe accueillir vers la hantise, pourrait-on dire, de Jésus à l'idée que des gens soient maintenus loin de Dieu, hein, ou s'enferment eux-mêmes dans l'idée que, puisqu'ils sont pécheurs, ils ne peuvent pas venir à Dieu. Et c'est comme si, pour Jésus, il y a une attente fébrile.
En somme, il n'accepte pas. Il dit pas, tant pis pour eux. Mais il y a vraiment là une passion, une hantise, une préoccupation.
Oui,
là.
Et une espérance, un désir, ouais. une attente. Alors, c'est ça. C'est autre chose que d'être content de voir qu'ils viennent. Et c'est pourquoi le berger et la femme sont de bonnes images de Jésus. Et dans les deux cas, pour prolonger ce que vous venez de dire, Claude, on nous dit bien dans ces deux paraboles que les deux personnages cherchent jusqu'à ce qu'ils trouvent.
Il n'est pas question de laisser tomber,
non.
En fait. C'est ça qui est...
on cherche jusqu'à ce qu'on trouve.
Ouais. Et si on fait un parallèle, par exemple, avec Matthieu, lui, il va dire, en parallèle, il va dire, s'il la trouve...
Oui, Matthieu a peut-être signalé pour les gens une parabole parallèle à celle de Luc, qui est celle du berger. Il n'a pas celle de la femme. Ce qui montre que Luc a vraiment souhaité redoubler l'impact en mettant deux pareils de suite.
Ouais.
Mais chez Matthieu, il y a une parabole du berger qui cherche une brebis aussi, et c'est au chapitre 18 de
chez
Matthieu.
Excusez-moi.
Mais comme vous dites
Matthieu 18, ouais.
Il la cherche, le berger ne la cherche-t-il pas? Et s'il la trouve, il la ramène.
Voilà.
Alors que chez Luc, il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve, vous voyez. Donc, il y a une insistance là qui me rappelle un petit peu une des paraboles qu'on a commentées au Carême l'hiver dernier, qui se trouve au chapitre 13 de Luc, qui est aussi propre à Luc. Ce jardinier qui s'inquiète d'un figuier qu'on va couper parce qu'il ne porte pas de fruits et qui dit non, attends, je vais bêcher, je vais mettre du fumier et puis on va voir ce qui va se passer.
Ah non, il lâche pas.
Il travaille fort.
Ouais.
Et il me semble que ces images-là, pour moi, personnellement, en tout cas, c'est plus efficace qu'une phrase comme, qui est une belle phrase, hein, « Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ». C'est une phrase que nous avons dans la deuxième lecture de ce dimanche. C'est un témoignage de Paul, un témoignage assez émouvant. Mais « Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs », c'est une affirmation. Un jardinier qui se retrousse les manches, un berger qui s'égratigne pour chercher une brebis jusqu'à ce qu'il la trouve, une femme qui fait tout le ménage pour trouver.
Une femme qui fait tout le grand ménage, puis qui ne lâche pas tant qu'elle ne l'a pas trouvé.
Oui, pour moi, il y a une efficacité dans ces images-là plus forte. On disait que la parabole est adressée aux pharisiens et aux scribes. Donc, ça veut dire que Jésus leur propose de voir autrement sa propre attitude envers les pécheurs. Bon, c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Mais je dirais aussi que ça propose un regard différent sur les pécheurs eux-mêmes. Ils sont perdus, on pourrait dire, dans le sens habituel du Nouveau Testament, ça peut vouloir dire périr, mourir. Bon, par exemple, les scribes cherchaient à faire périr Jésus. Le verbe qui est là, c'est « chercher à le perdre ». Ça va. Être perdu, c'est être en danger de mort. On trouve ça chez la parabole du fils prodigue. Hein. Le père va dire à ses serviteurs et il va répéter à son fils aîné, « Ton frère était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Hein, » Il était en danger de périr. Hein. C'est ça, au fond. Et il est retrouvé. Alors, c'est comme si pour Jésus, le perdu... Le pécheur, le loin de Dieu, ça éveille la même compassion active que pour les malades. Hein? C'est le danger que ces gens-là courent en étant coupés de Dieu qui le préoccupe et qui le mobilise, je dirais. Peu lui importe la nature de la faute. Hein? L'accent ici porte sur son désir de les sauver d'un péril. Vous voyez? Chez Matthieu, vous parliez de la parabole parallèle. Chez Matthieu, la brebis, elle s'égare. Hein? On n'a pas le verbe « être perdu ».
Non, elle s'égare.
Elle s'égare. C'est pas le berger qui l'a perdu, c'est elle qui s'est égarée. C'est un peu de sa faute, hein. Elle s'est trompée de chemin.
C'est ça. Puis encore une fois, s'il la retrouve, il va la ramener.
C'est ça. Mm-hmm. Mais il y a plus la notion de fautive, je dirais. La brebis est fautive. S'égarer, c'est prendre les mauvais chemins. On peut le prendre au sens moral aussi, hein. Donc, la joie de Jésus de retrouver des gens qu'il considère comme ayant été en péril. J'ai parlé beaucoup donc de cette joie de Jésus qu'il invite les pharisiens à partager avec lui, tout comme le père du fils prodigue va inviter son fils aîné à partager sa joie.
En somme, il nous amène à la joie de Dieu lui-même.
Oui, c'est ça. On peut dépasser ici la joie du père, du berger, de la femme dans les récits et la joie de Jésus dans sa vie, de Jésus-Christ dans les évangiles, pour aller jusqu'à la joie de Dieu lui-même, comme vous dites. Pourquoi on peut faire ça? À cause des conclusions?
Voilà. Et enfin, ceux qui écoutent Luc là, sont invités à partager la joie de Dieu.
Voilà. Les scribes et les pharisiens et les pécheurs qui sont là sont invités à partager la joie de Dieu à cause de cette conclusion qui est répétée dans les deux paraboles. C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Puis là, la deuxième partie, plein de gens n'aiment pas ça, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Bon, dans la deuxième parabole, il va pas répéter cette partie-là. Seulement la joie pour un pécheur qui se convertit. Puis là, nous, on se dit, ben oui, c'est ça. Dieu, il tire pas de joie à voir des justes, sous-entendu comme vous et moi, Claude. Non, Luc, essaie pas de dire que Dieu ne tire aucune joie devant des gars comme Siméon ou, voyez, devant des femmes comme Élisabeth ou Marie. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est d'une joie qui est liée à un événement, hein, une joie soudaine. Il y a des joies stables dans notre vie, des choses qui sont toujours source de joie.
Il y a des événements
qui
causent des grandes joies.
Une joie qui explose, c'est un événement, c'est un événement espéré, attendu, c'est le retour de celui qui était loin de Dieu, c'est les retrouvailles de Dieu avec le pécheur, et à ce moment-là, il y a une joie intense en Dieu, qui n'a rien à voir avec la joie qu'il éprouve le reste du temps pour plein de bons moments. Hein? Ça évoque l'attachement de Dieu. Un Dieu, je dirais, qui ne se résigne pas à les perdre. Hein? Et donc, qui va les chercher jusqu'à ce qu'il les trouve. Ça évoque le bonheur de Dieu à découvrir que des gens qui s'éloignaient de lui, maintenant sont proches de lui et peuvent donc être sauvés. C'est comme si Dieu avait eu un manque qui est enfin comblé, une fin I.M., qui est enfin rassasié. Donc, c'est un certain visage de Dieu, je dirais, qui est proposé dans ces deux paraboles. Un visage de Dieu complémentaire de la figure du Père dans la parabole du fils prodigue. Mais ici, l'accent n'est pas mis sur le repentir, mais d'abord sur l'attente, le désir, le travail, je dirais, de Dieu pour que vive celui ou celle qui est loin de lui. Et je vais conclure, Claude, si vous me permettez, en allant chercher un peu d'Ézéchiel, que personnellement, j'aurais pris pour la première lecture. J'invite les gens à lire le chapitre 34 du prophète Ézéchiel, qui développe la métaphore des brebis du troupeau de façon magnifique. Et on a un tout petit bout où Dieu dit « Je chercherai moi-même la brebis perdue, je ramènerai celle qui sera égarée. » Du coup, Luc et Matthieu sont comblés. « Je soignerai les brebis malades. » Mais je vous envoie aussi au chapitre 33, au verset 11, où là, on n'a pas une métaphore, mais directement le langage du péché. « Vous dites, nos péchés sont sur nous, nous périssons. Nous sommes perdus à cause d'eux. » Et Dieu dit, « Mais par ma vie, parole du Seigneur, est-ce que je prendrai plaisir à la mort du pécheur? Non. Au contraire, je désire qu'il vive. »
C'était au chapitre 33, donc, d'Ézéchiel. Et aussi, vous invitiez à lire Ézéchiel, chapitre 34.
Oui, au complet, ce beau chapitre, en complément de nos deux belles paraboles qui nous parlent du désir de Dieu.
Bien. Alors, mon invité ce matin, Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Au microphone, Claude Julien, qui vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.